question. Il y a très peu de gens qui ont des choses intéressantes à dire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'appelle. Bon, pour dire que le répondeur, ça fait chier, quoi. C'est chiant. Allez, pour le reste, on s'éclate et surtout, surtout l'émotion. Mais, le plus important, on apprend des choses.
Ouais, salut Daniel, c'est François. Écoute, je t'appelle là, je suis devant la citadelle d'Amiens. Il y a 11 ans, le 22 février 2002, il y a un jeune qui s'appelait Hector Lubota qui lui aussi est rentré, a porté son casque de chantier, s'est installé pour faire de la maçonnerie, il pleuvait, il faisait du vent ce jour-là. Et il y a 600 kilos de pierre, tout un mur de briques qui lui sont tombés sur la tête. Il en est mort ce jour-là, sur le coup. Alors pourquoi je te parle de ça 11 ans plus tard? Eh bien parce que cette affaire, elle a été enterrée en silence par les élus et la justice. Comme la famille s'est accrochée, comme leur avocat s'est accroché aussi, Gilles de Robien, l'ancien maire d'Amiens, aujourd'hui président du Bureau international du travail, et donc supposé veiller à la sécurité de tous les travailleurs du monde entier, va être poursuivi pour homicide involontaire. Alors ce soir, c'est le lancement des éditions Fakir à Amiens, à 19h à la salle de Wailly, et entre autres, on aura un débat sur cette affaire de la citadelle, avec l'avocat de la famille, avec des sœurs d'Hector. Donc voilà, alors comme d'habitude, il y aura une fanfare, des vidéos. C'est ça à 19h ce mardi 14 mai à la salle de Wailly. Salut Daniel, ciao.
Bonjour Daniel, je viens d'écouter ton émission La Sorita. Ce musée qui est quand même sympa, qui n'est pas un petit musée. Il y a des choses qui quand même, t'as peut-être oublié, mais t'avais pas le temps. C'est de parler des sacrifices humains, c'était affreux, fait par le roi. La présence des Danois, qu'est-ce qu'ils faisaient ces Danois sur place? Ils faisaient de l'esclavagisme, évidemment. Et puis surtout, en discutant avec le type du musée, pour y avoir été deux, trois fois, la terrible situation des gens qui tentent de revenir au Bénin après avoir été enfants et enfants d'esclaves, c'est pas gagné pour eux. Allez, je te souhaite une bonne journée et superbe émission. C'était Pierre.
Fernand Césaire était le père d'Aimé Césaire. Fernand disait, lorsque Aimé parle, la grand-mère sourit. Voilà, c'était Maryse de Lode. Au revoir.
Oui, bonjour Daniel, et merci pour tes émissions, et bonjour à tous les AMG. C'est par rapport à l'émission d'aujourd'hui, moi j'ai lu il n'y a pas longtemps un bouquin là, de Jean Ziegler, La haine de l'Occident, qui est vachement bien. Et dans ce bouquin-là, j'ai appris qu'il y avait énormément de rues à Bordeaux, qui portait le nom de marchand d'esclaves, tout simplement, d'esclavagiste. Ça m'avait vraiment surpris. Alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, s'ils ont fait quelque chose là-bas à Bordeaux ou pas. Je ne sais pas si les Bordelais sont bien au courant de tout ça. Et puis ça serait bien qu'ils changent ces noms de rue, quoi. Ça serait la moindre des choses.
En ces temps de commémoration du crime contre l'humanité que constituait l'esclavage, j'aimerais rendre honneur un petit pays et puis un petit roi de lait. Ce pays, c'est un pays qui, le premier dans l'histoire de l'humanité, a interdit l'esclavage sur son territoire et a décrété du jour au lendemain que tout homme qui rentrait esclave sur ce territoire devenait libre. Et bien ce pays, il se trouve que c'est la France. C'est en 1315 que le petit roi Louis X, le mutin, c'est-à-dire le querelleur, qui a duré à peine 2 ans dans des problèmes à ne plus finir avec sa noblesse factieuse, et ben voilà, ce roi de France fut le premier roi de l'histoire à avoir décrété que l'esclavage était aboli sur ces territoires et était irrecevable sur ces territoires.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. On va revenir à quelque chose qui s'est passé l'an passé sur le plateau des Glières avec les résistants d'hier et d'aujourd'hui. Il y a eu un moment magique, un moment suspendu, le discours d'un homme que la montagne reprenait en écho. Et la foule qui était là était saisie, et même, il faut bien le dire, au bord des larmes. Et nous aussi. Et le discours a été suivi par un interminable torrent d'applaudissements. Eh bien, nous venions de découvrir Charles Palland. Charles Palland. Il était temps de le découvrir, il a 91 ans. Charles Palland venait de parler de ses convictions, de sa vie de petit juif né à Belleville en 1922, déjà syndicaliste en 1936, puis déporté à Auschwitz. Il est le fondateur du MRAP, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix. Bref, une vie de militant, mais conscient de ce qu'il a vécu. Parce qu'on peut vivre des choses extraordinaires, des choses douloureuses, des choses terribles, mais ne pas très bien comprendre ce que l'on vit. C'est tout à fait possible. Or, Charles Palland a été tout à fait conscient, tout au cours de sa vie, de ce qu'il vivait. Par exemple, à Auschwitz, il se retrouvera à Buna Monowitz. Vous savez, Buna Monowitz, c'était une usine où 40 000 déportés venus de toute l'Europe travaillaient pour notamment le géant allemand de la chimie, IG Farben, Farben Industrie. Et là, il travaillait à la construction d'un complexe destiné à la production de l'essence et du caoutchouc synthétique. Mais il n'y avait pas seulement IG Farben, il y avait des enseignes, des marques de toutes les grandes firmes allemandes de la construction, de l'électromécanique, des cimenteries, des transports, etc. Et Charles Palland dit « Ah, mais c'était l'équivalent de nos 200 familles !» Parce que, dit Palland, beaucoup voient encore aujourd'hui dans le nazisme une sorte de catastrophe, de tsunami. Hitler serait descendu du ciel, mais non, pas du tout. Hitler a été l'instrument d'un système expansionniste qu'il a prolongé en terrorisant son peuple et les peuples occupés. Par conséquent, il faut toujours démonter les systèmes politiques et économiques et voir comment se font les choses. C'est ce qu'il a fait toute sa vie, alors qu'il avait quitté l'école à 12 ans. Aujourd'hui, première partie de cet entretien avec Charles Palland. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour Félix, à Cognac. Je viens juste d'écouter votre émission sur les brigades internationales. J'en ai pleuré. Les gens de ma génération, on parle toujours de mai 68, de la révolution qu'il y a eu à cette époque, mais je pense que les brigadistes internationaux devraient être un exemple pour nous, pour moi, le jeune. Ces gens étaient des braves.
Zara et H&M vont signer un accord pour ensemble vérifier les conditions de sécurité incendie des entreprises dans lesquelles ils font fabriquer leurs fringues à partir de maintenant. Nul doute que l'équipe de la Bassigi Suisse sera trouvée dans la discothèque de Radio France. Pour illustrer ce message, un bon disque de Pipo.
Difficile de réagir à chaud à une émission qui suscite tant d'émotions, de révoltes et de questions. Pour le cynique et négationniste descendant de Francisco Felipe de Sousa, l'esclavage fut un bien. En 2013, en Europe, c'est aussi pour leur bien que des dizaines de milliers de Grecs et d'Espagnols, et aussi des Portugais et des Italiens, vivent en Allemagne, pour y fournir une main-d'œuvre bon marché, diplômée, flexible et mobile si possible. La ministre du Travail allemande a déclaré que c'était une chance, pour l'Allemagne bien sûr. Dans un article du Monde du 2 mars 2013, Claire Gatinois écrit « La question est de savoir si ces immigrés feront le chemin inverse une fois la croissance retrouvée. Sans cela, l'Europe du Sud perdrait cette main-d'œuvre si précieuse et avec elle, sa substance économique pour le futur. » La croissance, c'est un peu comme l'arlésienne de Daudet. On en parle toujours, mais on ne la voit jamais.
Mesdames, messieurs, je mesure le grand honneur qui m'est fait ce matin d'être aujourd'hui proposé à votre indulgente attention au milieu de tant d'orateurs prestigieux qui m'entourent. Ici ou avant nous, s'était exprimé Raymond Aubrac, que j'ai eu le privilège de rencontrer peu de jours avant sa mort. Ici, ou avec le bonheur que l'on sait, Stéphane Hessel nous disait que le levier de la résistance, c'est l'indignation. Résistant d'hier, résistant d'aujourd'hui, à côté de ce monument à la gloire des combattants du plateau des Grières, que nous disent ces héros? Ils nous disent « Nous ne sommes pas morts, Nous vivons en vous qui poursuivez les luttes pour l'émancipation humaine. Un homme, disait Maxime Gorki, ça sonne fier. Soyons fiers d'être des hommes. Bonheur et longue vie à tous.
Salut, c'est Daniel Mermet, et là-bas si j'y suis avec Charles Palan. Croire au matin.
Flight number 2, arriving from New York.
Charles, je suis tout content de vous trouver là maintenant. Ben, presque un an après, hein, on vous avait rencontré au Glière, on vous a écouté au Glière. C'est un endroit formidable et on a, je vous avoue une chose. Pour ma plus grande honte, j'ignorais complètement qui vous étiez. Et j'ai été étonné par ce discours. On a découvert un homme. Et chez les gens qui ont vécu la déportation, qui ont vécu ces moments terribles de l'histoire, etc., très souvent, c'est un peu les mêmes discours. C'est tout à fait bouleversant, mais c'est toujours un peu les mêmes discours. Là, on a senti une autre dimension. On a senti une dimension politique dans votre façon de parler. Et puis, ce que vous venez de me dire en entrant, c'est que vous avez vécu avant et c'est que vous avez vécu après. Donc, vous ne pouvez pas être résumé ni réduit à ces quelques années terribles, c'est vrai, de votre vie. Alors, si vous voulez, on va commencer par le commencement. On va suivre, Charles, si vous voulez, la ligne à peu près chronologique de votre existence. La difficulté que nous avons, c'est faire rentrer 92 ans de vie dans une malheureuse heure d'émission de 50 minutes. Il faudra qu'on passe de 92 ans à 50 minutes. Oui. Donc ça veut dire des choix. Alors commençons par le commencement.
Oui. D'abord, en 50 minutes, on peut raconter beaucoup de choses et même plusieurs vies. La mienne a commencé à Paris en 1922. Mes parents étaient des immigrés, polonais, juifs. C'était leur deuxième immigration. Mon père et ma mère s'étaient connus avant la Première Guerre mondiale. Et mon père sortait de prison. C'est un militant anarchiste.
Où ça, en Pologne ?
En Pologne. Cette partie de la Pologne était dominée par la Russie à l'époque. La Pologne a été reconstituée après la Première Guerre mondiale. Et ce jeune couple a fui vers l'Angleterre. Il faut dire que la grande fuite se faisait vers l'Amérique.
Oui.
Mais c'était conditionné par l'épaisseur de la bourse. Oui. Alors l'Amérique pouvait s'arrêter en Allemagne, pouvait s'arrêter en Belgique. Pour eux, c'était arrêté en Angleterre. Et j'étais donc des exilés politiques. La Première Guerre mondiale terminée, qui s'était très bien passée pour eux, ils avaient le droit d'asile, donc pas mobilisables, ils gagnaient bien leur vie et tout. La Première Guerre terminée, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a la Révolution en Russie. Eh bien, c'est de ça qu'ils rêvaient. Et ils partent, comme un certain nombre de familles exilées. Ils partent, on vend tout et on part pour Moscou pour suivre la Révolution. Or, quand on arrive dans la Moscou de Lénine régnant, les conceptions anarchistes ne sont pas tout à fait celles qui ont cours. Et bientôt, c'est un autre exil, on vend le reste et on se sauve. Et mes parents ont déjà deux enfants. Et mon père arrive à Paris. Et tout de suite, on trouve du travail dans la France après Première Guerre mondiale. 1,5 million de morts, 3 millions de malades, blessés, gazés, amputés. La France est vainqueur, mais elle est à terre, hein. Faut la relever. Alors mon père travaille quelques mois et fait venir ma mère, porteuse d'une merveilleuse espérance que vous avez devant vous aujourd'hui, 90 ans après. Et c'est donc comme ça que je viens au monde. À Paris, Je suis né à l'hôpital Rothschild, peut-être dans le même lit que le cardinal Lustiger, qui lui est également né à l'hôpital Rothschild de parents juifs polonais. Enfin, entre autres.
Alors c'est 1922, votre naissance ?
1922. Je grandis dans le quartier populaire de Belleville. Les immigrés sont nombreux, venus de l'Europe du Nord, de l'Est, bientôt de l'Italie, en proie au fascisme, et c'est les immigrations politiques. Le travail ne manque pas, mon père devient militant syndical, dans la tradition libertaire de l'époque, ni Dieu, ni maître.
C'était l'anarcho-syndicalisme, un peu.
C'était l'anarcho-syndicalisme de l'époque. À la maison, on se réunit le soir ou le dimanche, des camarades, des amis. Moi, j'apprends à parler avec les mots révolution, grève, patron, droit syndical, salaire. C'est les mots avec lesquels j'apprends à parler. Et tous les ans, mon père, d'abord sur les épaules, puis près de lui, m'amène vers le mur des fédérés. On célèbre la commune de Paris. Je crois que c'est là que j'ai appris à marcher. Et bon, ben voilà. Mon père, miné par les épreuves, la prison, la dureté de la vie.
La prison en France ?
Non, non, la prison dont j'ai parlé il y a un instant, dans la Russie tsariste, avant son mariage. Il tombe malade et meurt à 44 ans, laissant ma mère avec 4 enfants, dont j'étais le troisième. Et mes études sont vite interrompues. J'arrête mes études de droit, j'avais 12 ans. J'étais promis à devenir avocat, parce que je m'exprimais déjà mieux que mes frères et sœurs. Et je deviens ouvrier maroquinier, apprenti maroquinier. Nous sommes dans les années 34-35. La France de cette époque est celle qui a résisté au fascisme en 1934. Mmh. Il y avait cette tentative de l'extrême droite la plus réactionnaire de subvenir la République aux voleurs, il n'y a rien de nouveau. Hein. Bien, je suis donc entré en maroquinerie comme d'autres entrent dans les ordres et fort de cette victoire populaire de 1934 se noue le pacte d'unité d'action, puis bientôt le pacte du Front populaire pour le pain, la paix, la liberté. Et la victoire du Front populaire aux élections de mars 1936, l'avènement du gouvernement présidé par Léon Blum, les grèves éclatent, moi-même. Je découvre que je suis en grève, ma profession est en grève, et c'est une époque où je suis le seul employé de mon petit patron qui habitait en face de chez moi et que des mauvaises affaires avaient amené à se replier sur un tout petit atelier dont je reste le seul prolétaire en place.
Assez, monsieur, assez. En grève. Monsieur le chef, ma voix s'élève pour vous annoncer sans façon que nous allons nous mettre en grève. Ce que nous voulons, nous l'aurons.
Eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez.
C'est pas assez.
Comment ? Alors, voulez-vous être augmenté de 1000 francs ? Vous acceptez ?
C'est pas assez !
Mais l'argent, on s'en fiche, nom d'une pipe ! Chef, mais c'est une question de principe !
Alors, voulez-vous un an de repos et le droit de parler argot ?
C'est beaucoup trop !
Vous protestez, et pour quelle raison ?
D'abord, parce que c'est la mode ! Et puis pour embêter le patron.
Ah, c'est comme ça. Eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez.
C'est pas assez.
Alors, voulez-vous être commandeur tous de la Légion d'honneur ?
C'est pas assez.
Comment ? Enfin, songez au revers de la médaille. car enfin ici, il n'y a que moi qui travaille, non?
Soit nous l'avouons bien haut, vous travaillez du chapeau.
Ah, pas le semble, c'en est trop.
Continue avec Charles Palland, 91 ans, je le rappelle. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que les grands témoins du XXe siècle, les grands résistants, disparaissent peu à peu et beaucoup rentrent dans la légende. Il y a des commémorations, des honneurs qui leur sont rendus. Tout ça, c'est autant de mises à distance, c'est un peu la fabrique des statues. Or là, nous avons encore la chance d'être simplement assis en face d'un homme qui parle tout simplement.
Un jour, le monsieur se présente en disant « on voudrait parler au personnel, le personnel c'est moi ». Et ils me disent, ah, c'est toi là-bas. J'étais un peu déconcerté. Ils disent, tu sais, la profession est en grève. Dans le mouvement général des grèves qui se déclenchent alors. Et je leur réponds, si on est en grève, je m'arrête. Et j'avais les doigts pleins de colle, comme on a dans la maroquinerie. Je vais me laver les mains. Et mon petit patron, je dis mon petit patron, parce que c'était le patron d'une petite entreprise, c'est tout. Il ne me désapprouvait pas, c'était lui-même un ancien ouvrier, il avait été mineur de fonds en Allemagne, il était surpris, mais il comprenait ma réaction, il savait de quelle famille je venais aussi. Et la seule chose qu'il me dit, c'est « mais n'oublie pas de m'informer quand la grève sera finie Et alors, en allant vers la bourse du travail, il m'explique un peu de quoi il en retourne. Et nous arrivons là, rue du Château d'Eau. Ça bouillait de partout, il y avait toutes les professions parisiennes, les grands magasins, les usines. C'est la grève. Et je vois un panneau, demain à 10h, réunion des délégués d'atelier de maroquinerie. Je me suis dit, c'est là qu'il faut être pour savoir ce qui se passe. Bon, finalement, je rentre chez moi, je reviens le lendemain matin, et on est en file indienne, on se fait inscrire pour dire d'où on vient, et devant moi, un monsieur dit le nom de la boîte où il travaille, son nom, et le camarade qui prend les inscriptions passe derrière moi, et moi je protège, je dis « alors moi, on m'inscrit pas ». Il me dit « mais pourquoi tu es gréviste ?» Je dis « oui ». « Et tu es délégué ?» Il dit « oui ». Et tu as été élu? Je dis oui. Il dit par qui? Je dis par tout le monde. Vous êtes combien? Je dis je suis tout seul. Et alors, à ma grande surprise, la réunion va commencer. On appelle donc des camarades aguerris, responsables de ci, responsables de ça. Et le plus jeune délégué de la profession, peut-être même de Paris, Charles Palland. C'est comme ça que pour la première fois, j'accède à la tribune d'une réunion publique, en somme, semi-publique en tout cas. Les débats se poursuivent.
Mais qu'est-ce que vous dites à cette tribune ?
Je ne lui dis rien, on ne me demande pas de parler.
Ah, bon, oui.
Je suis invité comme une présence, une sorte de bibelot. Je suis le plus jeune et je ne suis pas très grand en plus. Et bon, alors me voilà assis là, entre tous ces gens importants, enfin, qui me paraissaient importants et qui l'étaient sans doute. Et bien, voilà, la grève se poursuit pendant 4, 5, 6 jours peut-être. Au sixième jour, nous sommes convoqués dans la grande salle de la Bourse du Travail, la salle Ferrer. Et un responsable syndical m'appelle et me dit « Voudras-tu lire à la tribune la partie du contrat collectif qui concerne les apprentis et les jeunes ouvriers ?» Je n'y voyais pas malice, il dit oui, si on me donne le texte. On me donne donc le texte que je lis pendant que la réunion se déroule. Et je prends la parole, on est là entre 2 et 3 000 personnes. Je prends la parole derrière le micro et de cette voix plus jeune que celle que j'ai aujourd'hui, mais tout aussi claire, je donne lecture du passage du contrat collectif et je suis acclamé, plus en raison de mon âge que de mon discours sans doute, mais je suis acclamé. J'ai donc pour la première fois pris la parole à la Bourse du Travail de Paris. C'était en juin 1936. Et puis je rentre chez moi dormir, serrant précieusement dans ma poche la carte de la CGT. C'était mon premier diplôme après le certificat d'études. Et bien longtemps avant que je n'aie le permis de conduire, qui sera mon dernier diplôme acquis.
Le cri des grévistes. Nous ne voulons plus être chers à canon. Oh oui, debout, les damnés de la terre, secouez vos chaînes, vous qui crevez de faim, malgré vos chefs et malgré vos frontières, pour vous défendre, tendez-vous la main. Front populaire, tuez notre espérance, faites que nos rêves soient réalité, et saluons le monde qui commence en nous donnant le pain, la paix, la liberté.
C'est les congés payés. Est-ce que vous vous souvenez des congés payés? Les premiers
Comment
congés payés. Est-ce que vous vous souvenez des occupations dans les usines, des grands magasins?
Oui, je dois avouer que moi, je n'ai pas occupé mon usine. Oui. D'abord parce que j'habitais en face, mais j'avais des heures de présence à l'atelier. Mon patron continuait à travailler, c'était son droit. D'abord, il avait besoin de travailler, ne serait-ce que pour gagner de quoi me faire la prochaine paye à moi. Souvent, il me la faisait en deux fois. C'était une période très dure. Mon frère aîné, je me souviens, travaillait dans une autre entreprise plus importante. Et ils sont également restés quelques jours. Symboliquement, ils passaient chacun une partie de la nuit dans ces petites entreprises où la situation n'était pas les mêmes qu'aux Galeries Lafayette ou chez Renault. Hein,
on ne peut pas se tromper.
Mais ce que je me rappelle, c'est les résultats. Je les ai énoncés en partie à la tribune. 40 heures, j'en faisais 57. Je rentrais chez moi quand mon patron me disait « Allez, ça va pour aujourd'hui, rentre chez toi. » Et je quittais l'atelier. Et d'un seul coup, 40 heures. On quittait le travail à 18 heures. Je me souviens, il a fallu pas mal de jours pour que ma mère s'habitue à notre nouveau rythme de vie.
Ah oui.
Il fallait préparer le dîner pour 7 heures le soir au plus tard, alors qu'on dînait avant à 9 heures. Et puis, on apprend qu'on va pouvoir se reposer deux semaines sans risquer de perdre son emploi et en étant payé. C'est ce qui se passait avant. On n'était ni payé ni assuré de retrouver son emploi si on prenait une ou deux semaines de vacances, parce qu'il fallait bien se reposer. Et puis, la libre élection de délégués syndicaux dans les entreprises.
Ah.
Ce qui était une nouvelle absolument extraordinaire. Et tout cet horizon nouveau qui s'ouvrait. On travaillait jusqu'à 18 heures. Donc on s'inscrivait dans des clubs de loisirs ou d'études ou de sport, chose qui était impossible avant. Il y a eu une épidémie de tandem.
Ouais.
Et où les jeunes couples s'en allaient dans les proches ou lointaines banlieues passer des week-ends sportifs ou de repos. On ne pouvait plus facilement acheter des chaussures pour un enfant, renouveler un pull-over, parce que les salaires, tout à coup, étaient plus importants que ce qu'on recevait avant.
Ici Radio Cité, longueur d'onde 280 mètres 9.
ce qu'on est bien ici pour les vacances.
C'est bon de s'étendre, dit.
Ah, et de ne rien faire.
Mais je n'ai plus rien à lire.
Mais t'en fais pas, à partir de demain, tu trouveras chaque jour dans le journal...
Quoi donc ?
Mais la page des vacances, des récits d'aventure, des mots croisés, des photos, des dessins.
C'est tout le pays qui frémit d'impatience, c'est tout un peuple qui réclame du pain. Vas-y sans peur, tente ton expérience, nous sommes là pour faire taire les coquins. Vas-y Léon, défends ton ministère, vas-y Léon, faut que Marianne ait raison, car Marianne est une meunière, et les ailes de son moulin doivent tourner pour les prolétaires, pour que le peuple ne manque plus de pain, de pain, de pain.
Le chômage, en 1935, un an avant, il y avait en France plus d'un million de chômeurs. Il y avait des marches de la faim dans Paris. Je me souviens, tout gosse, mais ça m'avait impressionné terriblement, sur le boulevard de Belleville, s'arrêtait la roulante tous les jours à midi. La roulante, c'est la cuisine municipale. Hein, un chariot qui arrivait, et il y avait une file de gens qui attendaient pour recevoir une soupe. C'était les chômeurs. C'était la France de 1935. Et voilà qu'en 1936, cette embellie...
L'embellie.
...change la vie des hommes, des femmes, et par voie de conséquence des enfants. C'est ça l'éveil du Front populaire, et le souvenir que j'en garde, c'est d'une dynamique de vie. Tout le monde semblait avoir gagné à la tombola de l'existence. Et ça, je ne l'ai jamais oublié, ça ne peut pas s'oublier, ça. C'était à la fois mon éveil à la condition d'adulte, quand on devient un travailleur à 13-14 ans. On n'est plus des enfants. D'ailleurs, à l'époque, quand on avait son certificat d'études, 9 enfants sur 10 commençaient à travailler, en tout cas dans nos quartiers populaires. Et il y avait le 10e qui était fils d'artisan ou fils de boutiquier, qui faisait 2 années de cours complémentaires. Mais l'université nous semblait sur une autre planète. Dans notre entourage familial, il y avait un étudiant que nous voyions assez souvent. Eh bien, je n'ai jamais pu retenir son nom, parce qu'on l'appelait l'étudiant. Il était le seul que nous connaissions. Il n'avait pas besoin de nom. Il était l'étudiant. Voilà. Il y avait 50 000 étudiants dans la France. Il y en a aujourd'hui près de 2 millions et demi. Et puis, autour de nous, ça n'est pas seulement l'euphorie et la joie, c'est aussi la prise de conscience de la montée des fascismes. L'émigration s'élargit. Des Italiens qui ont fui l'Italie fasciste, bientôt des réfugiés allemands qui fuient l'hitlérisme. Je me souviens qu'après le travail le soir, il y avait 2-3 de ces réfugiés à qui je donnais des leçons de français. J'avais 15 ans. J'étais allé de Belleville jusque dans le quartier de l'Hôtel de Ville, où dans une librairie, on trouvait un livre, une méthode, qui s'appelait la méthode au foyer, pour apprendre le français. Uh-huh. Je me souviens des réfugiés allemands, qui, eux, ne s'exprimaient qu'en allemand. Cet allemand qui allait bien me servir quelques années plus tard, lorsque je serais moi-même, contre mon gré, et gratuitement transporté en Allemagne. Oui, je me rappelle de ces garçons. Aucun des 3 n'a survécu. Ils ont tous été, par la suite, arrêtés et livrés à la déportation. Je les revois devant moi. Leur visage n'a jamais quitté mon souvenir.
C'était des résistants, c'était des opposants.
Ils étaient soit juifs, soit résistants. Dans leur famille, il y avait des frères aînés qui étaient en chemin vers l'Espagne républicaine, où ils s'engageaient dans les brigades.
Les brigades.
On mesure ce que ça représentait pour ces jeunes Allemands de partir en Espagne pour combattre d'autres Allemands qui étaient le fascisme, qui étaient le nazisme, qui étaient la négation des droits de l'homme et du genre humain. Mm-hmm. On a vécu tout ça. Et moi, j'avais une conscience assez précoce de ce qui se passait autour de moi. C'est ce qui m'a marqué, imprégné. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, j'en ai encore des frissons quand j'évoque, quand je pense à tout cela. Ce qu'a été le siècle, le presque siècle que j'ai traversé, que j'ai vécu.
Charles Palland, 91 ans, avec qui nous sommes, a écrit un bouquin qui s'appelle « Croire au matin ». Je crois au matin. Il aime dire « Moi, j'ai jamais cru au grand soir, mais je crois au matin ». Mais c'est un livre passionnant parce que quand il raconte, par exemple, le Conseil national de la Résistance, il dit « Le Conseil national de la Résistance ne promettait pas d'aller planter le drapeau rouge sur la tour Eiffel ». Il dit aussi, par exemple, « Aujourd'hui, quand il y a une catastrophe ou des souffrances terribles, il y a des cellules psychologiques qui sont offertes aux rescapés des catastrophes de la vie ». Eh bien, à l'époque, dit-il, à la Libération, par exemple, eh bien, c'était les partis et les mouvements politiques qui étaient nos cellules psychologiques. Et c'est une explication comme une autre de l'engagement d'un homme comme celui-là.
À l'approche de la guerre, j'ai 16 ans. 16 ans, un travailleur de 16 ans, c'est un homme, hein.
Oui.
Et je me rappelle, nous nous cotisions pour payer le restaurant ou un après-midi au dancing de copains qui venaient en permission d'Espagne et qui nous parlaient des durs combats qui se livraient là-bas. Le vendredi après la paye, vendredi soir, j'allais à la sortie d'autres ateliers avec un tronc à la main pour recueillir des sous, pour venir en aide aux enfants d'Espagne. Les mots d'ordre étaient « bullet » pour les enfants espagnols. Et l'époque de Guernica, pas du tableau, mais de la triste réalité du bombardement criminel par lequel l'aviation allemande a presque détruit une ville espagnole. Voilà les souvenirs qui se sont imprégnés en moi. Est-ce que c'est les souvenirs qui font la conscience ou la conscience qui fait conserver les souvenirs? Mais est-ce que c'est important? L'essentiel, c'est de perdre ni l'un ni l'autre. Ni les souvenirs, ni la conscience. Je suis donc, à mon tour, un militant. Je me souviens, un jour, mon patron m'a dit « Tu sais, tu devrais t'inscrire à la LICA, qui était l'organisation contre l'antisémitisme de l'époque. » L'ancienne Ligue contre les pogroms, devenue la Ligue internationale contre l'antisémitisme, en raison de ce qui se passait en Allemagne. J'étais évidemment, et de loin et de beaucoup, le plus jeune des militants qui venaient là. Mais il faut dire que l'essentiel de la militance d'origine immigrée était faite de gens qui dominaient mal la langue française, qui l'écrivaient encore plus mal qu'ils ne le parlaient. Il m'arrivait d'accompagner des immigrés à la préfecture de police où ils allaient soit demander, soit renouveler des récépissés ou des cartes de séjour. C'est que très vite, j'apprends beaucoup de choses parce que je participe à beaucoup de choses. Et je voudrais dire, puisque c'est le rassemblement des résistants d'hier et d'aujourd'hui qui nous vaut cette rencontre,
absolument,
sur Daniel Mermet, je voudrais dire un mot de la résistance avant la résistance. Celle de la solidarité entre travailleurs. Celle de la solidarité avec les immigrés, avec les réfugiés des pays fascistes. C'est ce genre d'hommes et de femmes engagés, soit politiquement, syndicalement, même dans des associations cultuelles, même dans des organisations sportives, c'est eux, c'est ceux-là qui seront les premiers cadres de la résistance, parce que c'est vers ces gens-là que se tourneront ceux que l'occupation plongera dans des détresses inconnues. Pour l'homme ou la femme engagée, il n'y a pas de cassure entre les différents morceaux de calendrier. Il n'y a qu'une continuité. Et j'ai beaucoup de respect pour les militants, même ceux qui ne partagent pas mes engagements à moi. Le militant, c'est quelqu'un qui refuse cette idée que le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux, c'est l'avenir du bien. C'est ça, un militant.
Français.
Le maréchal Pétain, pendant la période de l'occupation.
Quiconque parmi vous, fonctionnaire, militaire ou simple citoyen, participe au groupe de résistance, compromet l'avenir du pays. Il est dans votre intérêt de garder une attitude correcte et loyale envers les troupes d'occupation. Ne commettez pas d'actes susceptibles d'attirer sur vous et sur la population de terribles représailles. Vous précipitez la patrie dans les pires malheurs.
Charles, mais quand vous dites militant où ça ? À la CGT ? À la LICA ?
Et évidemment, quand l'occupation vient, je participerai presque spontanément à la rédaction de deux tracts qu'on glisse sous les paillassons. Puis, les choses s'aggravant, on cherchera des planques pour ceux qui en ont besoin. Et aussi, on cherchera à ramasser des sous pour envoyer des colis à ceux qui sont déjà en prison ou dans des camps. Je me rappelle qu'alors que, évidemment, le syndicat était interdit, que tout ça était, devenait de plus en plus dangereux, nous étions quelques camarades à collecter les cotisations syndicales qui donnaient lieu à la remise de timbres en blanc sans rien imprimer dessus. Je me souviens de nos démarches, qui parfois étaient couronnées de succès, auprès de certains patrons quand on a arrêté les premiers juifs de Paris, en mai 41. Nous avons exigé que leur salaire continue d'être versé à leurs femmes. Et nous avons obtenu de certains patrons qu'ils versent totalement ou partiellement, pendant un certain temps, des salaires aux femmes dont les maris étaient déjà dans des camps. Ce sont des côtés de la résistance dont on ne parle pas beaucoup. Évidemment, 70 ans après, les résistants sont supposés avoir tous eu un canon dans leur poche pour tuer des boches. Ça se passait pas comme ça. Ça, c'était l'aspect le plus héroïque, bien sûr, le plus courageux. Mais c'était le côté le plus minoritaire de la résistance. La résistance, c'était pas d'aider les Allemands à mourir, c'était d'aider les Français à vivre. Et ça n'était pas rien. C'est tout un contexte de vie que je m'efforce de rapporter quand on demande palantes et souvenirs. Moi, j'ai été arrêté quand j'étais dénoncé en 43. La Gestapo est venue chez moi, là où j'habitais.
À Lyon.
Et découvrant notre judéité, ils ont arrêté ma mère et ma sœur qui sont mortes de la dénonciation qui me visait moi. Ça ne se passait pas comme ça chez les résistants non-juifs. On montait, on arrêtait le garçon ou la fille dénoncée ou pistée ou découverte pour sa participation à des activités interdites. Mais on n'emmenait pas la famille, on n'emmenait pas les parents, on n'emmenait pas les petits frères et les petites sœurs. Chez moi, comme chez d'autres, mon arrestation a signifié l'arrêt de mort pour ma mère et pour ma sœur. D'ailleurs, quand j'ai ouvert la porte, et quand ils ont dit Gestapo, police secrète allemande, et j'ai dit à ma mère, c'est la Gestapo, son cri a été, mais c'est la fin de notre vie. C'est tellement...
Donc on savait parfaitement...
Mais bien sûr, on savait. On savait. Et quand on raflait, soi-disant, pour aller travailler, des juifs qui avaient 85 ans, hein, ou des bébés qui avaient 3 ans. C'était pas pour les emmener travailler. Et puis, j'ai moi-même distribué des tracts racontant des tracts dont l'initiative revenait aux résistants juifs, notamment immigrés, plus que pour les juifs de vieille souche française qui s'illusionnaient des faux raisonnements comment mon père a fait 14-18, nous sommes français depuis la Révolution française. On n'imaginait pas.
Alors que vous étiez des juifs immigrés.
Nous étions des immigrés. C'est-à-dire des gens qui sont nés dans le combat pour protéger leur vie. Hein? La Pologne et la Russie, les pogroms. L'affaire Dreyfus, vécue en France, mais peu d'années avant. Nous sommes 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, quand j'étais un jeune homme, on était 35 ans après la guerre de 70.
Mais oui.
Hein? On était moins de 20 ans après la fin de l'affaire Dreyfus.
Mais oui.
On était dans ce drame permanent. Tandis que les Israélites bien nés, je me souviens quand j'allais en solliciter pour aider la Lika à vivre, pour nous donner un petit peu d'argent. Oh, disait, vous savez, ces Pola qui vont nous faire du tort. Il ferait mieux d'être plus discret. Toute la persécution des Juifs a été possible en raison du secret, d'abord, de l'hypocrisie des mesures prises et du secret quant à la finalité de la persécution.
Chantons sous l'occupation, un documentaire d'André Halimi, janvier 1975.
Les chefs nazis victorieux visitent le wagon de Rotonde. C'est là que la France a dû signer l'armistice le 22 juin 1940. La guerre est finie, semble-t-il. L'occupation commence. Mais déjà, la vie a repris. Dès le 15 juin, le journal Le Matin reparaît et s'efforce de rassurer les Français sur leur sort. Les affaires, d'abord. 15 jours après la défaite, les restaurants parisiens sollicitent la nouvelle clientèle par des annonces en langue allemande. Le concert Mayol affiche « Il meurt Paris, toujours Paris, et oui, le revoilà Paris, avec ses théâtres, ses cinémas, ses musicals, ses cabarets, avec presque tout son petit monde de la comédie, de la chanson et du rire, même si certains ont préféré l'exil, la captivité, la résistance, ou simplement le silence. »
L'auberge qui chante, d'André Dassary, interprète de Maréchal Nous Voilà.
Auberge au vieux mur où des lobes on chante. Vin clair, goujons et fruits mûrs, là tout nous enchante. On y pourrait chaque jour fuir la vie méchante. C'est l'auberge de l'amour, l'auberge qui chante. C'est l'auberge de l'amour, l'auberge qui chante.
Rire, avant tout, rire. Rire comme boire, pour oublier. Rire, sourire à la rigueur. Amuser, distraire, occuper comme occupant. Mais où sont les farceurs? Qu'importe, à ta santé Paris et que la fête commence.
Quand après la rafle du 16 juillet, les enfants de moins de 16 ans qui n'étaient pas concernés ont été l'objet d'une demande de Laval, le premier ministre de Pétain, demandant aux Allemands de ne pas laisser les enfants parce qu'ils pourraient demander des comptes sur le devenir de leurs parents après. Et que la police allemande, n'ayant pas prévu de déporter ses enfants, en a demandé l'autorisation à Berlin. C'est les gendarmes français qui ont arraché des bras de leur mère les gosses dans les camps de Beaune-la-Rolande pour que les mères soient déportées et les enfants abandonnés en attendant la réponse de Berlin. C'était l'œuvre de Bousquet, le secrétaire général de la police de Vichy.
L'ami de François Mitterrand par la suite.
Il faut aussi rappeler ces choses. Il y a eu la complicité consciente les autorités de Vichy, qui ne pouvaient pas ignorer quelle était la finalité de la déportation des gens de tous les âges et de tous les états, et y compris les bébés dont ils ont exigé la déportation.
Quant à vous, vous êtes arrêté quand ?
Nous sommes arrêtés, donc ma mère, ma sœur et moi, le 17 août 1943. Nous sommes à Lyon, nous sommes nés au Fort Montluc, qui est la prison militaire allemande. On va m'interroger. Ils ne savaient pas très bien de quoi ils m'accusaient. Et moi, j'essayais de me défendre le plus intelligemment possible pour qu'ils croient ce que je dis. Et quand ils m'ont mis des numéros du journal L'Humanité sur la table, en me demandant si je connaissais ça, je savais bien que si je répondais non, ils allaient briser les os. J'ai répondu, mais bien sûr que je connais ça. J'ai dit, moi, vous savez, ça m'est arrivé dans un restaurant, nous étions avec des camarades en train de déjeuner, la porte s'est ouverte et on nous a jeté une poignée de ces papiers dont on croyait que c'était de la réclame. Quand on a ramassé et qu'on a vu que c'était de l'humanité, évidemment, on a posé. Alors je ne sais pas si c'est ce numéro-là, on n'a même pas pris le temps de les lire. Et ça, c'était vrai. Et c'était évident que c'était vrai. Parce que c'est comme ça que ça se passait. J'ai participé à l'un et à l'autre comme lecteur. Et comme diffuseur, si j'ose dire. Bien. Et pendant ce temps-là, les Allemands me bourraient les côtes, mais celui qui m'interrogeait a porté l'uniforme de la milice française. C'était donc un Français avec qui on parlait en français. Il me dit, mais alors, t'es pour la guerre ou t'es contre la guerre ? Je dis, monsieur, comment on peut être pour la guerre ? Mais alors, tu n'étais pas engagé. J'avais 17 ans en France, on est soldat qu'à 21 ans. Et je suis le seul qui nourrit ma famille. Pourquoi est-ce que je me serais engagé ? Bon, alors les autres continuaient de me bourrer les côtes. Et lui cherchait à tendre un piège. Il m'a dit, bon, ça va pour maintenant, mais on va t'interroger. J'espère que tu dis la vérité. Si vous croyez que je peux ne pas dire la vérité alors que ma mère est en bas dans la cave ? Ça aussi, c'est évident. Donc c'est comme ça que, sur la promesse de nouveaux interrogatoires, on nous a le soir même amenés au fort de Montluc. Et alors que, généralement, les Juifs qui étaient arrêtés, soit à Lyon, soit dans les trains, soit passaient 7-8 jours à Montluc et partaient pour Drancy, moi et par voie de conséquence ma mère et ma sœur, nous sommes restés presque 2 mois au fort Montluc, où je m'attendais tous les jours à être réinterrogé, je ne l'ai jamais été, jusqu'à ce jour de fin septembre 1943, où on a appelé mon nom, et nous avons été, moi, menottés, et les femmes suivant derrière, amenées jusqu'à la gare de Perrache. Je me rappelle encore ce transport dans l'autobus allemand. Il faisait beau, des gens se marchaient dans les rues, les filles me semblaient toutes belles. Et nous allions vers la gare de Perrache où, dans le train normal de Lyon-Paris, un wagon était apprêté par la Gestapo dans lequel on nous a fait monter. Les gestapistes étaient en civil et nous promettaient un voyage tranquille si nous nous tenions tranquilles. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre que de se tenir tranquille ? Voilà, comme ça que nous avons été amenés au camp de Drancy, dans la banlieue parisienne. C'était fin septembre. J'y ai connu mon anniversaire de 21 ans. Ma sœur, ce jour-là, avait échangé son pain contre 3 cigarettes. C'était son dernier cadeau d'anniversaire qu'elle m'avait apporté. Quelques jours après, je la voyais pour la dernière fois à la descente du train, arrivant à Auschwitz, où la première sélection m'a permis d'échapper à l'extermination. Nous étions 260 dans ce cas,
sur la rampe.
Dans ce train de 1000 hommes, femmes et enfants, vieillards, pour lesquels on avait d'abord pensé, ils ont quand même quelques délicatesses, ces Allemands. Nous, ils nous emmènent à pied. Mais les gens plus âgés, les femmes et tout ça, ils vont sûrement les emmener en voiture. C'est comme ça, on avait été séparés. On sait vers quoi les 740 autres sont allés, dont on n'a plus jamais entendu parler.
Merci, merci à Charles Palland. On le retrouvera demain pour la deuxième partie de cet entretien. Je rappelle le titre de son livre, Je crois au matin, qui est disponible aux éditions Le Manuscrit. Vous pouvez retrouver la vidéo de l'intervention de Charles Palland au plateau des Glières en mai 2012 sur le site là-bas.org, là-bas.org. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Programme, émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter aussi cette émission sur le site là-bas.org. Et puis, faites un tour sur la page Facebook de là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Grégory Wallon. Cette émission a été réalisée par Lucie Acoun et Chloé Sanchez, préparée avec Grégory Salomonovitch. Marion Dupas attend dès à présent vos messages sur le répondeur de la basse J'y suis au 01 56 40 37 37.
France Inter, partenaire du Festival de l'Imaginaire. Le monde vient à vous avec le chant Gagok, symbole du raffinement coréen. Les bouffonneries hilarantes du Kyogen japonais. Les danseurs masqués d'Ogon du Mali, légers comme des gazelles. Le Sema, cérémonie soufie des derviches tourneurs d'Istanbul. Et rendez-vous au Grand Festnos breton. Le Festival de l'Imaginaire se poursuit ainsi jusqu'au 29 juin. Retrouvez le Festival de l'Imaginaire dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter et le Nouveau Théâtre de Montreuil présentent du 14 mai au 7 juin Une faille, saison 1. Un feuilleton théâtral conçu et mis en scène par Mathieu Bauer. Dans les épisodes 7 et 8 de cette comédie dramatique haletante, les survivants réussissent à sortir sains et saufs, mais plus rien ne sera comme avant. Comment vont-ils reconstruire leur vie ? La fable sociale et politique se poursuit de rebondissement en rebondissement. Retrouvez Une faille, saison 1, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Il est 16h sur France Inter. Les informations, Laetitia Gaillet.
C'est la voix discordante au sein du Parti Socialiste au lendemain des violences qui ont émaillé la fête du PSG à Paris hier. François Rebsamen, sénateur PS, n'écarte pas le fait que Manuel Valls ait une part de responsabilité. À la question de la chaîne publique Sénat qui lui demandait aujourd'hui si les événements du Trocadéro relevaient de la responsabilité du club ou du ministère de l'Intérieur qui n'aurait pas dû donner l'autorisation d'une fête dans la capitale, François Rebsamen a donc répondu peut-être les deux. Il aurait mieux valu faire ça au Parc des Princes. Le sénateur socialiste s'est toutefois empressé d'ajouter qu'il n'avait pas les éléments du dossier pour porter un jugement. Manuel Valls, en tout cas, doit lui rencontrer dans l'après-midi les dirigeants du PSG, de la Ligue professionnelle de football et des responsables de la ville de Paris. Le football, et en particulier le football à Paris, est malade, dit-il. Nous devons là aussi en tirer les conséquences, selon donc le ministre de l'Intérieur. Et toujours à propos des incidents d'hier, un député UMP s'est attiré les foudres, pour le coup, de tout le monde aujourd'hui. Dans un tweet, Jean-Sébastien Vialat a déclaré ceci. Les casseurs sont sûrement des descendants d'esclaves, ils ont des excuses, va leur donner une compensation. Le député s'est aussitôt excusé. J'ai fait l'amalgame avec la politique laxiste de la garde des Sceaux et le fait que les casseurs sont persuadés qu'ils n'auront pas de sanctions. Loin de moi l'idée d'avoir le moindre propos raciste. On avait compris. Les députés socialistes voteront contre la proposition de loi du Front de Gauche sur l'interdiction des licenciements boursiers. Leur porte-parole Thierry Mandon affirme aujourd'hui que la lutte dans ce domaine est déjà engagée. C'est dans un amendement socialiste à la transposition de l'accord interprofessionnel sur l'emploi. La proposition de loi du Front de Gauche, en tout cas, elle débattue à l'Assemblée jeudi. Jean-Louis Borloo ironise aujourd'hui sur la Banque publique d'investissement. Avez-vous déjà essayé de l'appeler au téléphone, a demandé le président des centristes de l'UDI. Je vous souhaite bien du courage, dit-il, car il n'y a ni siège, ni bureau, ni téléphone. Après le scandale de la viande de cheval étiquetée bœuf, Findus a décidé de recentrer ses activités. La branche française du groupe suédois dit aujourd'hui avoir choisi d'investir pour développer ses productions françaises. Mais Findus rappelle aussi que ses produits à base de viande ne représentent que 5% de son chiffre d'affaires et les plats préparés 10%. Alors sur ces deux produits phares qui sont le poisson et les épinards, pour le poisson, le coût de l'investissement dans l'usine de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais sera de 12 millions d'euros et de 2 millions d'euros pour les épinards dans l'usine de Loudéac dans les Côtes d'Armor. Les éleveurs de porcs ont, eux, mené des opérations coup de poing aujourd'hui dans l'ouest de la France. Certains ont notamment manifesté dans les grandes surfaces de Vannes, dans le Morbihan. Ils ont par exemple étiqueté certains produits. Attention, produits d'origine inconnue. Les éleveurs de porcs réclament une revalorisation du prix de la viande de porc au kilo. La vidéo a fait le buzz sur Internet. Un homme ivre en Afrique du Sud qui a chargé à pied un éléphant dans un parc national. Eh bien, en fait, ce n'était autre qu'un guide de safari. Son employeur a décidé de le licencier et des mesures disciplinaires ont été prises également contre les autres personnes impliquées. Vous écoutez France Inter, il est 16h04. Tout de suite, Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Laetitia Gaillé.
Et bon Carrefour.
Ah oui, ben oui, Carrefour, il y aura une belle violoncelliste tout à l'heure. Emmanuel Bertrand à 16h30 et puis on va partir au cinéma. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Donc, du violoncelle comme s'il en pleuvait, ce sera au Festival de Beauvais du 21 au 26 mai. Et Emmanuel Bertrand, directrice artistique, va venir nous en parler, ainsi que de son dernier disque, Shostakovich. Cinéma, bien sûr, vous savez que ça s'ouvre demain à Cannes. La magnifique cérémonie du festival va nous amener énormément de beaux mondes. Et puis aussi, on espère, c'est encore plus important, de beaux films. Et il y a aussi à la Cité de la Musique à Paris, donc Porte de Pantin, une exposition Musique et Cinéma, le mariage du siècle, point d'interrogation. Et ça commence quand vous voulez, parce que c'est déjà depuis le mois de mars, et puis ça se termine, ça c'est sûr, que vous le vouliez ou non, le 18 août. Donc il y a du temps pour aller voir cette exposition qui est très passionnante au Musée de la Musique, dans la Cité de la Musique de Paris, 19e arrondissement. Un grand compositeur américain, John Williams. John Williams, on a l'impression qu'il a écrit presque toutes les musiques, en tout cas Spielberg et son frère. Il a été élevé dans une ambiance musicale, son père était musicien de studio cinématographique. Il a commencé par prendre des leçons de piano, il a appris le trombone, la trompette, la clarinette. Sa famille s'est installée à Los Angeles où il a étudié l'orchestration. Et puis il a continué avec le piano dans cette très belle école qui est la Juilliard School of Music de New York. Et après énormément de films, vous en connaissez certainement beaucoup, de Superman en passant par l'Empire Contre-Attaque, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, E.T., etc., etc. On va en aborder quelques-uns à travers la BO, comme on dit, la bande son ou la musique pour le concert qui en est tiré. Voici par exemple la musique de John Williams pour Harry Potter. Musique de John Williams pour le film Harry Potter à l'école des sorciers avec le Royal Philharmonic Orchestra dirigé par David Arnold. Et voici une pièce alors moins connue, un accompagnement de film. On ne sait jamais d'ailleurs si c'est un accompagnement parce que quelquefois la musique est plus importante. Quelquefois c'est la musique qui reste dans les têtes et plus que l'action qu'on voit sur l'écran. Alors là il s'agit d'une pochade Popular Entertainment, donc divertissement populaire, et c'est tiré de American Journey, donc le voyage américain. Moi, je ne l'ai pas vu, ce film-là, mais la musique est bien passionnante. Et vous savez que pour adapter la musique à l'image, il faut beaucoup de capacité, beaucoup, quelquefois, de précision, un chronomètre pour trouver les points de synchronisation, pour que le coup de poing tombe avec l'accord, etc., etc., que l'angoisse frémisse sous les trémolos des violons. Et... bon, c'est un art qui demande beaucoup de capacité. Voici donc ce divertissement populaire d'American